Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'élection présidentielle. Alors, je vous rassure tout de suite, je ne suis pas candidat. Donc, mais c'était pour parler, même si on peut dire si la course n'a pas commencé, des sujets qui intéressent les Français et qui vont faire débat au cours des présidentielles. Alors, je vais me situer comme si je conseillais les candidats. Évidemment, il ne s'agit pas ni de politique étrangère, ni d'économie, mais d'un sujet, évidemment, qui nous concerne dans cette émission, celui du cadre de vie, celui des territoires, de l'architecture et de l'urbanisme. Alors c'est vrai que ces sujets, en tout cas, on ne les entend pas en tant que tels. Même, c'est assez curieux, c'est que la question du logement, qui pourtant est un sujet très présent chez tous les Français, on peut dire d'ailleurs chez tous les humains, ce sujet n'apparaît pas dans les sondages où on parle de l'écologie, on parle de la sécurité, on parle de l'identité nationale, de divers sujets. Et ces questions de l'environnement bâti n'apparaissent pas, et pourtant elles sont, pour des raisons diverses, parce que c'est le quotidien, c'est aussi ce sont des dépenses importantes pour les familles que constitue justement le logement, et puis tout ce qui peut être lié à ce qui est bâti en tant que service, le travail, l'éducation, les loisirs, l'administration, etc. Alors, je vous disais que ça n'apparaît pas dans les programmes des candidats, et peut-être que ce qui apparaît dans les programmes, comme les questions de sécurité ou les questions environnementales, sont peut-être cachées derrière, ou plutôt, non, c'est plutôt l'inverse, ces questions de logement seraient cachées justement par des énoncés de préoccupations, peut-être qui sont liés aux demandes que font les sondeurs, mais c'est aussi que ça n'apparaît pas dans le discours politique d'une manière assez claire. Alors c'est vrai que l'écologie a pris en main justement ces questions à la fois d'aménagement du territoire. Alors la position surtout de l'écologie politique, qui n'est pas l'écologie scientifique, c'est surtout de ne rien faire, de ne rien construire, si ce n'est des éoliennes. Et donc on est sur on peut dire sur une négation de la croissance et de la transformation, ou alors avec des prétextes environnementaux qui ont rendu ces dernières années très difficile de faire des logements, par exemple, tellement on a eu un empilement de normes environnementales. Bon, j'ai déjà parlé de ça dans différentes émissions, et pour ceux qui m'ont suivi, bon, ils savent que j'ai une position en retrait, c'est le moins qu'on puisse dire, par rapport à cet abus de normes qui ont, on peut dire d'une manière vulgaire, plombé la construction du logement, et en tout cas, réduit les surfaces, augmenté les coûts, et donc, au final, rendu de très mauvais services à nos concitoyens. Mais L'aménagement du territoire est quelque chose d'important qui a eu son heure de gloire, notamment, alors on le sait, on ne va pas refaire l'histoire de la royauté, de l'Empire et des dernières républiques, mais on peut dire que dans l'après-guerre, et notamment sous l'impulsion de De Gaulle, il y a eu un commissariat au plan et des décisions qui ont fait que l'État central a pris des dispositions pour qu'il y ait des répartitions territoriales. Par exemple, Toulouse a bénéficié de ces décisions pour l'aviation, mais aussi pour la météo, pour le centre d'études spatiales. En fait, ce sont des décisions qui étaient centralisées. Alors, il faut dire que la régionalisation, tout en ayant son intérêt, a fait perdre cette vision globale de l'aménagement, et c'est une question qui pourrait être reposée dans une campagne présidentielle, même, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas candidat. Mais derrière donc ces mots qui sont ceux de la sécurité ou de l'identité, on peut aussi trouver, sans entrer dans des débats, on peut dire, qui sont complexes à la fois et aussi tumultueux, on peut dire que la question de la sécurité est aussi une question de la manière dont le territoire est aménagé. Alors, il y a le problème des quartiers dits sensibles. Je ne vais pas faire un débat sur les problèmes de l'immigration qui sortiraient du thème d'aujourd'hui. Par exemple, on va prendre un exemple qui est lié à la crise récente ou la crise actuelle que l'on vit toujours, la crise sanitaire, c'est que les gens se sont rendus compte que dans les villes, ils vivaient dans des appartements qui étaient petits, et tous les gens qui n'ont pas la chance d'avoir un jardin ou une grande loggia ou des grands balcons avec la proximité d'espaces verts ont souffert, notamment dans ces périodes de confinement qui ont été douloureuses pour une partie de la population. Et c'est vrai que les réactions qu'il y a eu par rapport à cela, si j'en lis les gazettes et les échos des professionnels, il y a une demande non seulement de maisons à la campagne secondaire, mais aussi de transfert de population où des gens ont essayé de se rapprocher des villes moyennes, des villages, en tout cas en dehors des centres des grandes agglomérations. Alors, à mon sens, ce n'est qu'un on peut dire que la crise sanitaire n'est que le déclenchement de ce que je pense être un mouvement en marche depuis longtemps, mais qui a été amplifié. Je ne pense pas que les crises peuvent renverser les mouvements sociaux. Il va les accélérer, mais il ne peut pas y avoir un renversement. Donc ça n'a fait qu'accélérer quelque chose qui était déjà en cours. C'est quelque chose dont je vous parle souvent, c'est que contrairement à ce que disent les idéologues, les villes ne se développent pas et au contraire, on a une réduction de la population des grandes villes. Paris en est l'exemple le plus connu, c'est 15 000 habitants par an pour le moins, enfin c'est assez important, mais c'est un phénomène qui est à peu près général dans les villes denses, donc qui va à l'encontre justement de la théorie généralement racontée par la métropolisation et aussi par l'écologie qui vous disent que tout le monde habitera dans les villes, donc il est urgent de révolutionner l'organisation des centres-villes, etc. Attendu que ça ne touche que un peu plus de 5% de la population, en tout cas entre 5 et 10% de la population, suivant la manière dont on calcule ces densités urbaines. Mais là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, revenons à notre propos sur l'aménagement du territoire, et j'étais en train de vous dire donc que ce phénomène qui est déjà amorcé d'une manière qui n'était pas très rendue visible, aujourd'hui apparaît d'une manière plus claire, et je pense que c'est une bonne chose, parce que Paris, le désert français, titre d'un ouvrage de l'après-guerre, était en fait, je crois que c'était, on peut dire, une certaine imposture, parce que le phénomène était déjà amorcé dans les, on peut dire, dans les 20-30 années après la fin de la guerre, on avait déjà un reflux, et que l'attraction de la ville à la fin de la guerre a été rapidement inversée, et on peut dire que la France est un pays qui n'est pas un désert, et qu'il y a une répartition de la population, justement, la question que posent les écologistes sur l'arrêt des constructions est un véritable problème, parce qu'en fait, on va à l'envers des besoins, on va à l'envers de la demande des populations, et c'est donc un vrai problème social. Donc, je vais, après la pause musicale, développer... au-delà du logement aussi, c'est ce problème de l'aménagement du territoire, et de la manière dont on pourrait voir, au-delà du logement, comment les activités pourraient être, on peut dire, rééquilibrées, en tout cas diffusées d'une manière qui est autre que celle dans les concentrations de métropoles. Bon, on marque une pause musicale. Alors je reviens sur les propositions pour la présidentielle. Donc la première qui me semblerait la plus demandée, puisque on entend dire, avec juste raison, des réclamations sur des critiques qui sont très fortes sur, alors ça s'appelle La France moche, c'était Télérama qui avait lancé, je crois, ce terme, et il y avait des émissions de télévision aussi, c'est dans le discours, on dit l'alaidissement de la France avec ces zones commerciales et industrielles que l'on a dans les entrées des villes. Alors, la question n'est pas de remettre en cause, comme certains voudraient le faire, d'une manière qui me paraît assez irresponsable, de dire il faudrait supprimer ces zones. Mais non, ces zones, si elles y sont, c'est pas pour le plaisir d'en dire le paysage. C'est qu'il y a d'une part une grande partie d'entrepôts qui sont les lieux de stockage de toutes les denrées, qui se distribuent non seulement dans les villes, mais aussi dans les campagnes, et elles sont stockées parce que il y a la proximité des nœuds routiers, des nœuds de l'aviation et des échanges commerciaux, et donc ce qu'on appelle les hubs sont évidemment répartis sur le territoire, pas d'une manière uniforme, mais près de certains centres. Donc il y a effectivement ces activités, ces lieux d'entrepôt, et puis aussi il y a des activités qui sont industrielles, qui ne peuvent pas être, qui sont regroupées parce qu'il y a des bureaux, il y a des usines, en fait il y a tout un ensemble d'activités qui sont bien souvent nouvelles, et également on a aussi des lieux qui n'existaient pas. Par exemple, il y a des centres de loisirs, il y a, je ne sais pas, prenons un exemple, des salles de musculation, ben, ça n'existait pas après la guerre, donc il y a tout un ensemble de nouveaux bâtiments qui ne peuvent pas être mis dans les centres-villes, puisque les centres-villes sont déjà construits, donc ils sont à la périphérie des villes, mais pas uniquement des grandes métropoles, mais on a effectivement cela aussi autour des villes moyennes et aussi autour des villages. Je ne parle pas des lotissements qui sont aussi dans ces extensions. Donc la critique qui est faite par rapport à cela, on pourrait la retourner sur les gens qui font la critique, qui peuvent être des décideurs, à la fois politiques, qui peuvent être des théoriciens géographes, par exemple, qui peuvent avoir aussi une part dans l'information et dans le débat public, et puis aussi ma profession d'architecte et d'urbaniste, qui critique des choses, mais qui me paraît aussi être responsable à la fois dans la manière dont on forme les professionnels. On forme les professionnels essentiellement sur des choses, on peut dire, valorisantes, et ce qui est valorisant, c'est l'aménagement des centres-villes, c'est l'aménagement de, je sais pas, des côtes, des côtes, des plages, des lieux balnéaires, en fait tout ce qui peut être un peu glamour, et on n'a que mépris pour ces lieux. Dans toutes les écoles d'architecture, vous n'avez jamais un exemple de centre commercial de banlieue industrielle, tout ça n'est pas traité. Alors, c'est assez curieux parce que les premiers projets modernes, il y avait la cité industrielle de Garnier, c'était en tout début du XXe siècle, et aussi Le Corbusier, qui est critiqué aujourd'hui, prévoyait les lieux du travail, les usines, les lieux commerciaux. On appelait ça avec horreur, aujourd'hui on appelle ça avec horreur le zoning, et on est pour la mixité. Alors la mixité, c'est le n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on mélange tout. Donc au nom d'une mixité qui n'a jamais jamais existé d'ailleurs, puisque vous savez tous que les villes avaient des quartiers réservés, regardez Toulouse, la rue des Tourneurs, la rue des Filatiers, la place de la Bourse, enfin, il y a tous les métiers, les menuisiers, les tourneurs, qui étaient dans des rues, justement, avaient ces types de concentration, et il y avait les quartiers résidentiels, les quartiers justement d'artisanat avec le logement des ouvriers, et en fait la ville n'était pas une ville de mixité, et était une ville organisée justement, et ce que l'on refuse de faire aujourd'hui. Donc, la proposition que je fais, c'est de dire aux candidats futurs, mais évidemment, quand je parlais des présidentielles, ça peut être les candidats à tout, et notamment les candidats municipaux, c'est que il faut aujourd'hui revoir ces zones, et la plupart d'ailleurs sont un peu anciennes, et ça ne gênerait pas et ça ne demanderait pas beaucoup d'argent de reprendre les zones, par exemple tout cet accès nord de Paris, mais aussi la zone Thibault, Montaudran, qui sont assez fatiguées, et on pourrait les améliorer, les aménager et faire des lieux qui soient tout à fait agréable. Et là aussi, on peut aussi penser y introduire du logement, pourquoi pas. Alors, il pourrait y avoir un plan de renouvellement, de planification, mais ça veut dire que ces sujets deviennent des sujets majeurs et qu'on ne les traite pas en disant « c'est la France moche, avec des pancartes ». Vous savez, personne ne veut faire des bâtiments moches. Et si les zones commerciales sont un foutoir, c'est parce que personne ne les planifie. Et on met chacun met son bâtiment à côté de l'autre, il n'y a quasiment pas de règles d'urbanisme. Les architectes des bâtiments de France vont faire des règlements où les fonctionnaires d'urbanisme dans toutes les collectivités vont faire des règlements d'urbanisme où on va vous étudier le moindre détail de couleur des volets, et puis là on laisse faire n'importe quoi, et ce n'est pas une volonté de on peut dire des protagonistes, justement, puisque ces mêmes personnes seraient au contraire ravies d'être dans un environnement qui soit de meilleure qualité, à la fois pour les bureaux, à la fois pour les lieux de travail, et à la fois aussi pour toutes les activités qui sont liées aux aménagements, qui sont liées et qui sont liés au commerce, c'est vraiment une question de vision globale, et cette vision globale, personne ne se saisit de ce sujet. Donc, j'entends bien les imprécateurs et les gens qui dénoncent cela. Vous savez, c'est pas très compliqué. Il suffit de faire des plans d'urbanisme, de proposer des aménagements, et on verra que la grande majorité de ces occupants de ces lieux seraient ravis qu'on puisse les aménager et les aménager évidemment d'une manière positive. Et ça, on a tous les outils pour le faire. Donc ça, c'est la première proposition. Une autre proposition, ce serait par exemple, on parle de l'université française, on parle des problèmes d'éducation, on parle des problèmes d'ascenseur social, etc. Et ce n'est pas mon sujet. Par contre, on a un problème français qui est lié à notre histoire universitaire, qui faisait que les premiers lieux universitaires étaient dans les villes, la Sorbonne, les facultés anciennes de médecine de Montpellier, et c'est pareil à Toulouse, enfin à peu près dans toutes les villes. Et dans d'autres pays, ça n'a pas été comme cela. C'est-à-dire qu'il y a eu des universités qui étaient construites sur le principe des monastères, et par exemple en Angleterre, Cambridge et Oxford étaient justement des lieux à la fois de christianité et des lieux d'éducation. Donc ce modèle ensuite, qui était donc ce modèle ancien, médiéval on peut dire, qui fait qu'il y avait des villes hors de la ville, des villes qui étaient monastiques et universitaires. Et donc on a cela en Allemagne, on a cela aussi en Espagne, à Alcalá de Henares par rapport à Madrid par exemple, et je vous disais donc Oxford et Cambridge, et le fondateur, de, on peut dire le président architecte qui a fondé l'idée de campus, Jefferson, dans le nouveau pays qui était les États-Unis d'Amérique, a repris ce système du campus, le campus veut dire au champ, et pour faire un maillage qui était justement déliaisonner des villes. D'ailleurs, les villes américaines, qui étaient à la fois celles donc, de l'industrie du développement économique, étaient déliaisonnées du pouvoir politique. Ça, les États américains ne sont pas dans la ville-centre. Par exemple, l'État de New York, c'est Rochester, enfin, c'est le cas de toutes les villes. Mais, vous le savez, certainement, les grandes universités américaines, ou la plupart en tout cas, alors il y a des exemples notables comme Columbia qui est à New York, mais New Haven par exemple, l'université de Yale, c'est une ville tout à fait sur le modèle de Cambridge et d'Oxford, mais aussi par exemple dans le Michigan, l'université du Michigan, ce qui est une grande université américaine, est totalement loin de Détroit, et c'est une ville universitaire, Ann Arbor, mais vous avez aussi Boulder, vous avez Stanford qui est à côté de Palo Alto, qui est une petite ville. En fait, vous avez cet exemple général. Alors, l'avantage de ces universités regroupées, c'est que ce sont des universités de tous les savoirs, et aujourd'hui, je pense que la France a un vrai problème universitaire, c'est que les universités sont éclatées dans une sorte de tradition française entre les sciences et les humanités, qui font qu'on a d'un côté, comme à Toulouse, l'université scientifique Paul-Sabatier et le Mirail, Jean Jaurès aujourd'hui, et la fac de droit qui est un autre lieu, les études économiques ailleurs, et puis toutes ces écoles qui sont l'aviation, etc., qui sont éclatées et morcelées. Donc, on pourrait, je pense, assez facilement faire des regroupements sur les mêmes campus. Par exemple, pourquoi l'université de Paul-Sabatier diviserait pas ses étudiants scientifiques pour en faire créer une nouvelle université et incorporer les humanités, et également l'université des humanités incorporerait les sciences, et on pourrait créer d'autres universités, alors non seulement à Toulouse, mais aussi près d'autres villes de la région, du département d'abord, et puis de la région. Et ça serait une rééquilibrage, et aussi je pense que sur un plan de l'ascenseur social, on aurait une plus grande diversité de proximité entre les populations et un choix universitaire beaucoup plus grand. Donc, autant l'université serait difficile à modifier par elle-même, on connaît les ossifications françaises des structures, et je pense que le rôle justement de l'aménagement des territoires et d'une redistribution pourrait être fait ainsi. Alors, on pourrait aussi aller vers d'autres exemples, mais je resterai sur ces deux sujets, qui étaient, un, c'était les zones industrielles et commerciales qui pourraient être redistribuées et reconfigurées, et puis ce problème des universités qui pourrait très facilement et sans rien démolir, uniquement des recompositions qui pourraient être faites, je pense, d'une manière intelligente. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Thank you.